Cela fait presque 5 ans qu'Apple a abandonné Intel pour passer sur ses propres puces Apple Silicon. Celle-ci ne repose pas sur la même architecture étant donné qu'il s'agit de puces ARM. Sur le fond, elle se rapproche plus des processeurs d'iPhone que de ceux des PC historiques. La transition était une réussite, les Mac ayant gagné en puissance tout en ayant vu leur autonomie grimper en flèche. Le monde du PC s'y intéresse aussi. Microsoft a présenté l'année dernière sa gamme Copilot Plus basée sur des puces ARM et embarquant des puces Qualcomm. Pendant ce temps, Intel a vécu une année pleine de turbulences, marquée par le départ de son directeur et des plans de licenciement massifs. En ce début 2025, où en est la concurrence et comment se porte Apple? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Pour discuter de tout cela, je suis aujourd'hui en compagnie de Pierre, le spécialiste des puces Apple Silicon de la rédac. Il a travaillé pendant 8 ans chez Canard PC Hardware avant de rejoindre MacG. Salut Pierre.
Salut Félix.
Et je suis également avec le développeur du programme CPUZ, Franck Delattre. Il s'agit d'un utilitaire pour Windows qui donne des détails sur les caractéristiques matérielles de son PC. Salut Franck.
Salut Félix.
Franck, on va commencer avec toi, si tu peux te présenter un petit peu. De ce que j'ai compris, tu touches à du matériel varié pour le développement de CPUZ. Est-ce que tu bosses sur Mac aussi ?
Bonjour à tous, déjà, et merci pour votre accueil. Donc, je suis un ancien programmeur de jeux. J'ai travaillé à Montreuil-sous-Bois chez Ubisoft entre 1996 et 2004. J'ai commencé à développer CPUZ sur mon temps libre à partir de 1999. Bon, d'abord uniquement sur Windows et sur x86. À partir de 2013, sur Android. Et enfin, en 2024, sur Windows ARM 64. Voilà. Donc, en plus de CPUZ, je développe aussi d'autres petits softs, notamment Hardware Monitor, ou HW Monitor, qui est dédié au monitoring et sur les mêmes plateformes que j'ai citées. Donc, mes environnements de développement principaux sont Windows, pour x86 et depuis peu pour ARM 64 et Android. Les deux environnements proposent des outils performants et stables. Il y a une communauté de développeurs assez large qui permet d'obtenir de l'aide assez vite. Android est différent quand même. C'est une plateforme, on va dire, plus communautaire dans le sens où l'aspect open source se traduit parfois par des mises à jour qui demandent de changer des réglages dans le code ou autre. Enfin, c'est-à-dire quand on met à jour son environnement, il se peut que la version précédente ne compile plus, pour une raison X ou Y. En général, ça se règle très vite, mais c'est vrai que c'est un aspect qui est complètement absent de Windows. Les outils sont beaucoup plus stables et au prix d'une inertie beaucoup plus grande en cas de problème ou de bug. Pour information, CPUZ est développé avec Visual Studio 2008. C'est pas une version très neuve, mais voilà, ça marche très bien et bon. De ce côté-là, ça se passe bien. Oui, alors tu me demandais pour le Mac. Alors, mon premier contact avec un Mac, c'était un contact un peu particulier. Je me suis trouvé en possession d'un MacBook Pro de 2008, donc en l'occurrence avec un processeur Intel. Et il possédait une fonctionnalité que je trouvais intéressante, c'était un accéléromètre qui, si je ne dis pas de bêtises, permettait de parquer les têtes du disque dur en cas de chute. Et donc voilà, j'avais monté un MacBook Pro sous Bootcamp, donc Windows, pour interroger cet accéléromètre.
Ouais, moi j'ai joué avec à l'époque. C'est rigolo parce que je pense que Félix, déjà, ce que tu as oublié de dire, parce que Félix est trop jeune pour y avoir joué, c'est que tu as travaillé sur Pod et sa version 3D Fix, c'est ça ?
Oui, c'est ça, exactement.
Voilà. Et je pense que les joueurs des années 90, vraiment, ce jeu de course futuriste qui était accéléré 3D et accéléré MMX à l'époque.
En effet.
C'est ce que Intel mettait en avant. Non, et moi j'ai joué avec l'accéléromètre, ça permettait de faire un sabre laser. En fait, avant d'avoir les iPhones, moi je le faisais déjà sur des Mac, même PowerPC, on pouvait faire bouger le Mac et ça faisait le bruit de sabre laser. J'ai vu des gens qui utilisaient ça pour comme sismomètre, hein, même, parce que c'était vraiment très sensible, en fait. C'était assez particulier. Mais ça a disparu, du coup, parce que sur les Mac avec des SSD, il n'y a plus besoin de ce genre de capteur.
Voilà. Donc là, effectivement, c'était ma première, mon premier contact avec le Mac. Et bon, bah là, seconde étape qui commence en ce moment, c'est de porter les logiciels sous macOS. Donc okay. Là, j'ai juste démarré.
D'accord. Donc Apple a un calendrier de sortie assez régulier. On a eu de nouvelles puces il n'y a pas si longtemps avec les modèles M4 Pro et M4 Max des MacBook Pro. Pierre, est-ce que c'est une bonne cuvée la gamme M4? Il me semble que tu me disais que c'était une des plus grosses avancées qu'on a eues depuis les premières M1.
Ouais, en fait, la puce de 2024, j'ai failli écrire, voilà, c'est une grosse avancée dans le monde Apple.
Ouais.
D'abord parce qu'en fait, on a plus de cœur. Donc sur du M1 ou M3... on avait 4 plus 4 cœurs, donc 4 basses consommation, 4 cœurs performants. Ouais. Et ici, déjà, on passe à 6 plus 4. Donc, il y a 6 basses consommation et 4 performants, ce qui augmente directement la puissance de calcul. On a de la mémoire plus rapide, on a une fréquence plus élevée, et puis il y a quelques améliorations techniques vraiment dans les processeurs eux-mêmes. Ce qui veut dire que sur la majorité des tâches, en fait, ça va quand même très nettement plus vite qu'un M1. Alors voilà, si on compare un M2 ou un M3, la différence est plus faible, mais voilà, par rapport à un M1 qui a 4 ans maintenant, 4 ou 5 ans, les différences sont très visibles sur beaucoup de tâches. Apple a aussi amélioré la partie graphique. Alors on a du ray tracing qui était apparu déjà avec le M3. On a plus d'unités, c'est un peu plus performant dans les jeux quand même. Et Apple aussi a amélioré le NPU. Alors le NPU, c'est le composant qui gère tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle au sens large. Ça peut être beaucoup de choses. Il y a plein de traitements dans macOS qui le gèrent. On en parlera un peu plus tard, mais voilà. Donc ici, il est à peu près 70% plus rapide qu'un M1. Sur des tâches vraiment standards, et il peut être jusque 2 fois plus rapide que sur un M3 sur des tâches particulières, ouais. Parce qu'Apple a ajouté la prise en compte de certaines choses qui n'étaient pas disponibles avant. Donc c'est vraiment bon cru, voilà, on a une belle évolution. Sur les deux autres variantes qui sont disponibles, donc il y a M4 Pro et M4 Max, c'est un peu la même chose. Alors, sur M4 Max, qui est le plus cher et le plus gros, ça évolue un peu moins en fait. Voilà, donc il y a le même nombre de cœurs que sur le M3 Max, tant pour le processeur que la partie graphique, mais la mémoire est beaucoup plus rapide. On a un grand gain, en fait, la version la moins chère des M4 Max est au niveau des M3 Max à ce niveau-là, donc la plus chère est un peu au-dessus, ouais. Et bon, du coup ça reste quelque chose de bien, mais c'est surtout sur le M4 Pro que c'est vraiment significatif. Alors, pour une raison un peu paradoxale, c'est que le M3 Pro était moins bien que les autres. Voilà. Donc, quand ils ont sorti le M3 Pro, il y avait moins de cœurs que dans le M2 Pro. Il y avait il y a plein de choses qui avaient été coupées et réduites pour le descendre un peu dans la gamme. Vraiment, si on se représente un espace entre M4 et M4 Max, voilà, le M3 Pro était plus près du M3 que du M4 Max. Et ici, ils ont remis le taquet de l'autre côté. Donc, on a plus de cœurs. Il y en a 14. Avec 10 rapides, on a un GPU qui a plus de cœurs, il y en a 20, on a une mémoire qui est beaucoup plus rapide, avec un bus beaucoup plus large, et donc c'est la puce la plus intéressante des 3. Et là, dans un Mac Mini, par exemple, ça permet de faire vraiment quelque chose de très performant, sans trop consommer. Voilà, là j'ai un Mac Mini M4 Pro sur mon bureau, c'est bien, ça chauffe pas trop, ça fait pas trop de bruit, et... c'est très performant. Du coup, c'est une gamme plus équilibrée que sur le M3, c'est plus performant.
Ouais.
Et surtout, bah, ça montre que le M1, c'était pas juste une exception, le M1, en fait. Voilà, Apple continue à faire évoluer correctement ses puces, alors qu'on aurait pu se dire que, ok, le M1 changeait tout par rapport à Intel, mais ils auraient pu rester sur des acquis, mais on voit qu'ils essaient quand même de faire un peu bouger les choses.
Franck, on en est où du côté des PC ? Chez Apple, par exemple, on sait qu'on a une nouvelle génération de puces environ tous les ans avec des améliorations de performance qui restent assez constantes. AMD et Intel, c'est un rythme de sortie similaire ?
En termes de fréquence de sortie, non. Ni Intel ni AMD ne sont capables de sortir une architecture nouvelle par an.
Ouais.
Chez AMD, par exemple, le calendrier de sortie des puces est relativement bien respecté depuis l'avènement de l'architecture Zen en 2017. Ouais. Et ils sont à la fréquence de... Ils sortent une nouvelle génération de puces tous les 2 ans. Mmh. On est aujourd'hui à Zen 5, donc on est à peu près à une génération en 2 ans depuis 2017. Mmh. Avec des gains de performance qui sont là, pas foncièrement intéressant d'une génération à l'autre, mais si on prend la peine de comparer deux architectures séparées de 4 ans, par exemple, on note un gain assez significatif. Donc, chez AMD, les process de fabrication ont suivi une courbe aussi à peu près du même ordre. Avec un Zen 1 qui était en 14 nanomètres et les nouvelles architectures Zen 5 qui sont en 4. Voilà, avec pour résultat des processeurs qui sont actuellement performants, raisonnablement économes en énergie. voilà. En fait, une des spécificités des AMD récemment, c'était l'avènement de la technologie X3D.
Ouais.
La technologie X3D qui consiste à incorporer un gros cache sur la puce, donc qui permet un gain de performance en jeu qui est très très intéressant.
Ouais.
Et qui assure de bonnes ventes auprès des joueurs. Alors, on peut s'interroger sur les raisons de ce gain de performance. À mon avis, c'est signe que la mémoire est actuellement un des gros facteurs limitants dans la performance des processeurs. Ce cache, de par sa présence, permet de masquer un maximum de latence d'accès à la mémoire.
Ouais.
Chez Intel, la situation est un peu moins claire. Je pense que Intel mène plusieurs combats de front depuis un certain temps. Le premier, ça a été la transition en tile, c'est-à-dire en multi-chip. Car en fait, il faut bien savoir qu'Intel, depuis le début de son histoire, fait des processeurs monolithiques, c'est-à-dire qui sont composés d'une seule puce. Le passage en tile donc a été opéré chez le concurrent depuis Zen en fait, hein, donc depuis 2017, apporte beaucoup plus de souplesse. Et surtout permet à Intel de se libérer un peu de ce poids des puces monolithiques qui finalement était de plus en plus difficile à développer, de plus difficile à produire, et tout ça dans un contexte financier qui n'était pas optimal pour Intel.
Oui.
Une des conséquences du passage en tile est forcément la perte de performance, ce qu'on imagine très bien par le fait que les tiles communiquent entre eux et les communications de tile à tile sont forcément moins performantes qu'une communication dans le même chip. Mais donc voilà, donc la première génération d'Intel qui a eu le design en tile était le Meteor Lake, les fameux Core Ultra, les Core Ultra 100 en l'occurrence. Donc pour autant, ces processeurs marchaient très bien, mais je pense que Intel n'a pas su vraiment combler la perte de performance liée au multi-tile. C'est peut-être une des raisons qui a expliqué que le processeur n'est jamais sorti en desktop.
Ouais.
Pas sûr que ce soit la seule, mais ça peut, à mon avis, expliquer un certain nombre de choses. Après, pour Intel, il y a aussi eu, évidemment, la guerre des laptops, c'est-à-dire le moment où finalement ARM est arrivé sur le marché, notamment sur les laptops, enfin en priorité sur ces machines. Ouais. Bon, on peut, je pense qu'on peut quand même parler pour d'un semi-échec, hein, pour la tentative de percée d'armes dans le monde du PC. Mais pour autant, pour le consommateur, l'offre laptop s'est, à mon sens, bien améliorée, avec des produits développés vraiment spécifiquement pour les plateformes. Pour les laptops. Alors, je parle de laptops, mais ça concerne aussi les mini PC, c'est-à-dire les ordinateurs au format Apple Mini.
Ouais.
Donc là, en l'occurrence, faut noter que les derniers produits Intel qui ont été développés vraiment spécifiquement pour ce marché-là, pour cette plateforme, ont montré quand même des avantages technologiques assez significatif. Alors, je pense au Lunar Lake, par exemple, qui est un processeur basé sur la seconde génération des Core Ultra, donc toujours en Tile, et qui a bénéficié d'une mémoire intégrée, c'est-à-dire d'une mémoire soudée à même la puce. Un peu ce qu'on retrouve sur le M4.
En fait, c'est ce qu'on retrouve sur les Mac depuis le M1. Mais Intel, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient quand même.
Oui. Alors,
voilà,
oui.
Ils l'ont fait pour une plateforme et puis ils ont dit c'est bien, mais ça coûte trop cher.
Voilà, exactement.
Parce que c'est ça la réponse. Enfin, ça a été annoncé un peu avant que le patron soit plus ou moins poussé à vers sortie, mais en gros, ils ont dit c'est bien, mais vendre la mémoire nous-mêmes aux fabricants, parce que du coup, c'est le problème, c'est que si c'est Intel qui intègre la RAM, Intel doit vendre la RAM après à ses clients, et en fait, les clients ont dit non, mais c'est trop cher, quoi.
Oui, alors je pense que pour Intel, ça s'est intégré dans un contexte qui n'était pas forcément le meilleur. On sait qu'ils ont un souci majeur en termes de financement, de développement. Moi, pour avoir essayé la plateforme, je trouve que le gain est là. Alors après, ça justifie peut-être pas l'investissement, certes, mais le gain est là. Bon, après, chez AMD, y a une chose qui s'est pas passée aussi, c'est qu'ils ont, ils avaient une stratégie, à mon sens, ils ont eu une stratégie de percer dans le monde du laptop qui a visé plus les joueurs. C'est-à-dire qu'ils ont développé énormément les APU. Alors, l'avantage qu'a AMD sur Intel, c'est qu'ils ont un pied dans chaque monde. Ils ont un pied dans les CPU haute performance et également dans le GPU haute performance. Un peu en retrait en ce qui concerne les GPU sur les générations qui sont sorties, mais ils ont quand même une avance sur Intel. Alors, j'ai pu lire quelques pré-tests du nouveau processeur, le Ryzen AI Max Plus 395.
Faut qu'ils embauchent quelqu'un pour les noms.
Pour les noms, ouais. Oui, clairement. Voilà. Bon, il a été présenté comme un killer de M4, un tueur de M4. Mm. Je sais pas si c'est vrai. Les benchs sont plutôt en faveur du Ryzen en termes de jeu. Et dans une enveloppe thermique, enfin dans une enveloppe énergétique plutôt favorable au Ryzen. Alors après, ça reste toujours un testeur qui teste une machine sur un certain nombre de tests. Mais disons que je pense que la plateforme est quand même assez intéressante pour que elle chamboule un peu la répartition des parts de marché sur les laptops. Alors, un dernier mot sur la tentative de percée d'armes sur le marché du laptop. Bon, clairement, il n'y avait qu'un processeur, le Qualcomm Snapdragon X Elite, ouais, qui a été décliné après en X Plus et en Snapdragon X tout court. Alors, j'ai eu plusieurs machines basées sur la plateforme, dont une très intéressante parce qu'elle a le format mini PC. Donc, par ce format, elle s'affranchit un peu des contraintes thermiques et énergétiques du laptop.
Ouais.
Ça marche bien, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Mon avis, je pense que le principal frein à la plateforme, c'est Windows. je pense que la plateforme ARM n'est pas encore tout à fait mûre.
Ouais, disons que un ami commun m'a donné des informations, enfin m'avait voilà, donné quelques informations officieuses sur les ventes de PC Windows ARM, et c'était vraiment pas beaucoup. C'était genre un millième des ventes de PC au global sur les PC portables, quoi. Et les retours qu'on a de différents constructeurs montrent que les Qualcomm avaient peut-être de grosses espérances, mais que vraiment ils en vendent pas beaucoup. Plus le fait qu'à une époque, c'est dans une des questions, je pense qu'on développera après, c'est un peu moins le cas sur la Snapdragon X, mais sur les PC Windows ARM précédents, parce que ça fait quand même 7 ans qu'ils en vendent, ils avaient quand même un gros problème de retour des clients, en fait. De gens qui les achetaient, puis qui se rendaient compte que non, vraiment, ça ne va pas, et qui les renvoyaient.
Bah, rien que ce que tu disais sur au niveau des pilotes d'imprimante qui ne marchaient pas, ou je sais pas quoi, c'est sûr que c'est rédhibitoire pour beaucoup de clients.
L'imprimante, c'est un problème, mais ça allait vraiment au-delà de ça, sur plein de choses.
Ouais, sur plein de trucs.
Oui, je pense que ils n'ont pas compris qu'une plateforme, ce n'est pas juste du hardware. Je crois que l'aspect software, ils l'ont peut-être sous-estimé.
Je pense qu'ils ont sous-estimé le fait qu'ils ont besoin des développeurs.
Voilà. Alors, après, juste un petit dernier mot pour Intel. On parlait du Tile, on parlait de l'amélioration des processeurs destinés aux laptops. Il y a aussi la fameuse affaire des Raptor Lake. Je sais pas si on peut parler d'affaire, mais en tout cas, ça fait écrire tellement de choses que je pense qu'on peut vraiment dire qu'il y a eu une affaire.
C'était quoi ça déjà?
Alors, c'était donc en fait, certains utilisateurs se sont aperçus que le processeur devenait défectueux à partir d'un moment. Donc, en l'occurrence, c'était un problème de microcode et qui permettait l'application d'une tension électrique supérieure à ce que le processeur était capable d'encaisser et qui menait à la dégradation d'une partie du matériel. Je ne pense pas que Raptor Lake soit un mauvais CPU, enfin une mauvaise génération de processeurs, mais je pense qu'Intel a trop poussé, essayé d'aller trop loin a poussé trop loin l'architecture pour qu'elle essaie de combler un petit peu la différence de performance avec les derniers processeurs, les Ryzen 7000 de l'époque. Et donc, ils ont un peu poussé trop loin les spécifications en termes de tension électrique. Et voilà, je pense pas que le processeur a été développé pour atteindre des fréquences et dissiper autant de watts que les modèles, notamment les KS, le faisaient. Moi, j'ai vu des machines, des 13900 KS qui tournaient en 300 watts en pic. Je pense que c'est voilà, ils atteignaient leur température de jonction, enfin la fameuse TJ max à partir de laquelle le processeur commence à réduire ses fréquences et diminuer sa tension. Ça l'atteignait en moins d'une seconde. Hein. Donc.
D'accord. Ouais.
Je pense qu'ils sont allés un peu trop loin.
Donc, pour ceux qui écoutent, qui connaissent pas nécessairement, les Raptor Lake, en fait, c'est les corps de 13e et 14e génération. Ce sujet, du coup, moi, j'en ai fait des actualités. Donc, voilà, c'est les modèles de Core i7 et Core i9 les plus chers, qui ciblent essentiellement quand même des joueurs, et qui, du coup, sont des joueurs aussi qui vont pas nécessairement les faire tourner, qui vont pas prendre juste les fréquences de base. Donc, c'est aussi des processeurs qui ciblent des gens qui vont les overclocker, qui vont les pousser aux limites. C'est pas quelqu'un qui va utiliser pour surfer sur Internet avec, c'est quelqu'un qui va jouer, donc forcément va le faire tourner au maximum de sa fréquence tout le temps. Et qui, du coup, voilà, c'est, il y a aussi plus de chances d'avoir des problèmes de surchauffe et de tension quand on les utilise beaucoup que quelqu'un qui va utiliser un Core i5 pour aller sur Internet en soirée, quoi.
Ouais. Pierre, t'avais écrit il n'y a pas longtemps un gros dossier justement sur les ennuis d'Intel. Comme on le disait, ouais, c'est assez compliqué, mais ça a accéléré surtout ces derniers mois. Est-ce qu'ils arrivent un peu à sortir la tête de l'eau ou c'est toujours compliqué ?
Ah non, c'est toujours la galère en fait. C'est même probablement pire parce que là, du coup, ils ont poussé. Enfin, non. Officiellement, le patron a décidé de prendre sa retraite. Oui. C'est Pat Gelsinger, qui est un ancien, qui est une personne qui avait développé à l'époque les 386 et 486. Il était revenu en tant que patron il y a quelques années. Là, début décembre, il a annoncé qu'il allait prendre sa retraite. Alors, vous ne me voyez pas faire les guillemets, mais voilà. Bon, on sent bien que quand le patron décide de prendre sa retraite et qu'il n'avait pas prévenu avant, c'est que voilà. C'était pas nécessairement préparé et qu'il était un peu poussé sur le côté, mais qu'on voit pas trop le dire. Voilà. Il y a des rumeurs de rachat depuis un moment. Il y en a eu des rumeurs par Qualcomm, mais bon, ça paraît un peu étonnant. La dernière en date est assez étonnante et disons que ça viendrait de n'importe qui, j'y croirais pas tellement. Là, ça vient de quelqu'un qui est généralement de bonne source, mais donc la rumeur en question, ce serait Elon Musk qui rachèterait Intel à travers SpaceX. Ce qui peut sembler étonnant pour une thèse, c'est quelque chose de compliqué parce que si Elon Musk applique ses stratégies habituelles sur une grosse entreprise qui sont vraiment de couper dans les effectifs et de ne garder que les gens qu'il considère comme vraiment efficaces et qui travaillent beaucoup sur une grosse boîte comme Intel, alors ça passe ou ça casse, et sur une grosse boîte comme Intel il y a quand même plus de chances que ça casse, ce qui serait vraiment un problème. Et puis, c'est une entreprise américaine dans un contexte géopolitique extrêmement compliqué, qui produit quand même essentiellement aux États-Unis, même si, en fait, sur les dernières générations, et c'est vraiment, je pense, c'est très compliqué de leur côté, c'est qu'ils ont fait produire par TSMC, parce que la graveur d'Intel ne marche pas. Et c'est ce qu'on expliquait dans un des dossiers. Une des grosses parties des problèmes d'Intel viennent de la graveur, quoi. Parce qu'en fait, en 2015, ils se sont sortis... Il n'y a pas de concurrence en 2015. Voilà. Il y avait les cores de 6e génération, les Skylake. Il y en a eu dans les Mac, il y en avait partout. C'était d'excellents processeurs. Il n'y avait pas de concurrence. Je pense qu'ils n'ont pas vu venir AMD. Bon, j'en sais rien exactement, mais voilà. Mais ils avaient un problème de gravure. Déjà à l'époque, ils n'avaient pas gravé correctement en 14 nanomètres, ils ont eu beaucoup de problèmes. Ça ne s'est pas amélioré avec le temps. Et en fait, les cores de 7e, 8e, 9e et 10e génération, c'est juste les 6e génération, et avec ce qu'il disait Franck au départ, en fait, ils les ont poussés. Donc, si on prend un Core i7 6000, c'est un processeur qui va atteindre 4 GHz, qui consomme 90 watts dans le pire des cas. Bon, c'est beaucoup, mais c'était voilà, à l'époque, ça allait, ça passait. Si on prend un Core i9 de 9e ou de 10e génération, c'est le même processeur en fait, sauf qu'ils ont mis plus de cœurs. Ils sont montés à 10 au lieu de 4, ils ont monté la fréquence, ça a dépassé 5 GHz, et quand on met beaucoup plus de cœurs, une fréquence beaucoup plus élevée, ça consomme beaucoup. Alors moi j'ai testé les Core i9 9000 et 10000 à l'époque, c'est des processeurs qui voilà, en charge, j'étais à 250 watts. Juste en faisant un truc, et du coup j'avais des ventilateurs qui normalement savent encaisser ça, et qui en fait ça plantait au démarrage parce que le ventilateur n'accélérait pas assez vite, et je me retrouvais c'est mort. Et du coup le problème qu'ils ont eu Intel, c'est qu'ils ont pas vu arriver AMD. Donc AMD a sorti quelque chose de bien en 2017, a confirmé ça au fil des années, et voilà, donc ils ont eu une concurrence qu'ils n'avaient pas. Parce que ce qu'il disait Franck dans les PC portables, AMD dans les PC portables avant 2018 ou 2019, ça n'existait pas. Voilà, c'était si vous voulez prendre un PC vraiment pas cher, vous pouvez prendre un AMD parce que voilà. Mais c'était à peu près la seule raison de prendre un AMD, parce que c'était pas cher. Le reste, tout le monde prenait de l'Intel. Et ils sont fait cannibaliser le marché où ils prenaient le plus. Et puis, en 2020, surtout, quand Apple est arrivé avec ses puces Apple Silicon, je suis pas certain qu'Apple Intel avait vraiment anticipé le gain de performance, déjà. Donc déjà, ils se sont fait ridiculiser, parce que, quand on voit un M1 qui consomme 10 watts, face à un Core i7 qui consomme 10 fois plus pour des performances au minimum du même ordre et probablement parfois plus élevées chez Apple, c'était un peu ridicule. Et puis, bah, ils ont perdu un gros client parce que Apple, mine de rien, c'était le cinquième fabricant d'ordinateurs dans le monde à ce moment-là, à peu près. Ouais. Et d'un coup, Intel a perdu le cinquième fabricant d'ordinateurs. Ils n'ont plus vendu de processeurs à Intel, ou pratiquement plus, du jour au lendemain. Donc, et là, du coup, à une époque, ils valaient vraiment beaucoup d'argent. Enfin, là, l'action, elle est assez basse. Ouais. Ils se sont fait largement passer par AMD. Nvidia, qui n'était pas concurrent totalement direct, mais est devenue deuxième ou troisième valorisation mondiale à cause de l'IA. Mm. Ils ont sorti des cartes graphiques, mais c'est pas extraordinaire. C'est intéressant en milieu de gamme. Mais du coup, le problème du milieu de gamme, c'est que c'est peut-être ce qui va se vendre, mais c'est pas ce qui donne
l'image de marque.
L'image de marque, parce qu'en fait, quand on parle de cartes graphiques, c'est un peu le problème avec les PC portables. Si on demande à quelqu'un qu'est-ce que t'as dans ton PC, qu'est-ce que tu veux comme carte graphique, très honnêtement, il y a quand même une chance sur 10 que la personne réponde une Nvidia ou plutôt une GeForce. Ouais. Plus qu'autre chose. Même si, on peut avoir une GeForce de très lente, il y a des modèles d'entrée de gamme qui sont pas très intéressants, mais dans un PC portable à pas cher, avoir juste le mot GeForce ou Nvidia écrit dessus ou le logo verdâtre, ça suffit à faire vendre en fait.
Ouais. Franck, toi, t'avais pu les tester les derniers modèles Intel ?
Oui, j'ai testé les Core Ultra 100 dans un laptop et récemment les 200, bon, comme à peu près tout le monde maintenant. J'ai trouvé que la performance était bonne. J'ai trouvé qu'ils avaient un intérêt certain par rapport aux générations précédentes, c'est-à-dire les 14000. Le gain de performance n'est pas incroyable. Par contre, l'efficacité par watt a été bien améliorée. Je trouvais que la performance par watt était quand même... Alors, certes, le 14900 n'était pas un modèle de en termes de performance par watt, mais disons que ça a été un défaut qui a été au moins en partie comblé. Je pense que pour cet aspect-là, Intel a rempli sa mission. Après, comme je l'avais dit, le multitile a aussi un poids en termes de perte de performance. Je pense que là aussi, ils ont fait un bon travail. Et je me demande toujours... je pense toujours au travail qui a été fait dans un contexte qui est le leur, c'est-à-dire avec des ingénieurs qui sont plus là, avec des investissements qui sont peut-être pas à la hauteur de ce que mériterait une boîte comme eux. Ouais. Alors, je trouve que l'accueil qui a été fait par la presse des Core Ultra 200 n'a pas été très bon. Ce sont quand même, la presse est quand même évertuée à comparer le corps ultra neuf, le très haut de gamme, hein, le 285K. Ils l'ont comparé pratiquement systématiquement au 9800 X3D, le Ryzen à 8 cœurs dédié au jeu, fait pour les gamers. Je trouve que là il y a eu j'ai pas trouvé ça très bien parce que à aucun moment la presse ne s'est demandé quel était le véritable concurrent du 285K. Je pense que c'était plutôt le 9950X qui est en fait la version 16 cœurs du Ryzen qui n'a pas la technologie X3D. Et qui est en fait également en jeu moins performant que son petit frère le 9800 X3D. Donc on trouvait souvent que ce qu'on critiquait au 285K, on l'appliquait pas au 9950X. Alors après de ce que j'ai compris, la presse a accueilli le processeur assez mal, notamment parce que Intel a tardé à envoyer des samples et a notamment envoyé des samples qui n'étaient que des mechanical samples, c'est-à-dire que le socket m'est vide et que beaucoup de sites beaucoup de reviewers ont trouvé que c'était un peu des façons un peu pour Intel de révéler le produit final trop tôt avant les tests. Bon, j'ai trouvé que c'était pas très juste. Je trouve que l'accueil qui lui a été fait n'était pas très juste.
Ouais.
Alors, bon. Après, je suis plus de ce côté-là de la barrière, vu que voilà, pour ma génération, je ne teste pas des processeurs Intel comme j'ai pu les tester pour Canard PC Hardware. Mais enfin, ouais, la façon dont ils organisaient les tests, bon, là, j'étais pas là, j'ai pas vu. Disons que ouais, certaines marques sont parfois un peu compliquent parfois un peu les choses. Enfin, je pense que surtout la comparaison, elle est forcément biaisée. Et t'as raison de comparer ça à un processeur pour les joueurs, mais ça part quand même d'un point très simple. C'est que en 2024 et en 2025, la majorité des gens qui vont acheter un processeur haut de gamme, qui vont monter en fait un ordinateur, donc ils vont pas acheter quelque chose de déjà prêt, bah, c'est pour jouer quoi.
Ouais.
Y a pas des masses d'achats de tours. Pour autre chose que des joueurs, les statistiques le montrent bien, c'est que le marché, c'est quand même plutôt 70 à 80% de PC portables. Et dans les 20 à 30% grand maximum de tours qui se vendent, il y a une partie significative qui sont des tours qui vont partir dans des entreprises et qui vont pas y bouger, et qui sont pas des PC montés. Donc, je pense qu'une des raisons, c'est que et qu'on part avec ça, plus le fait sûrement que, voilà, Franck, tu parlais de Sample, il y a des chances quand même qu'ils aient plutôt que les sites et les gens qui testent aient justement aussi un 9800X 3D sous la main, parce que bah, AMD sait que c'est un excellent processeur, et donc ils en ont envoyé.
Oui, je pense
et
aussi.
Et que les modèles les plus chers... après, c'est pas vraiment un secret, mais que, voilà, les grandes marques, quand elles sortent un processeur ou un produit très cher et qui n'est pas nécessairement aussi bon que ce qu'il devrait être par rapport à son prix, ils rushing parfois un peu apprêté, on va dire. Donc, il y a parfois quelques processeurs où on peut faire, voilà, nous, on pourra dire une actu, regardez, il sort, est-ce qu'il y a un test? Ben non, parce que le processeur, il coûte 1000 euros et qu'ils n'ont pas voulu nous le prêter. Et ils n'ont pas voulu nous le prêter parce qu'ils savent qu'il n'est pas très bien. Mais voilà, ça, on ne peut pas nécessairement écrire qu'ils savent qu'il n'est pas très bien. Mais
oui, ouais.
Il y a quand même aussi ce point-là qui joue.
Ouais, bien sûr.
Mais ça, c'est pas. Ouais, voilà, c'est toujours un peu compliqué.
Ouais. Alors, en même temps que la sortie des Core Ultra 200, un peu après, est sorti un nouveau type de mémoire, enfin une amélioration sur les mémoires qu'on appelle la QDIM. C'est UDIM. Alors, les modèles, enfin la mémoire qu'on utilise encore, c'est la UDIM. Et la QDIM est une évolution de la UDIM. Donc techniquement, elle ajoute juste une petite puce qui est en fait une puce d'horloge qui permet de mieux prolonger le signal d'horloge qui vient du processeur. Ça permet finalement à la mémoire de tourner de façon plus stable et en pratique à des fréquences plus élevées que s'il n'avait pas cette puce. Voilà. Pour en avoir eu en main et pour avoir testé les Core Ultra 200 avec ou sans, il y a un intérêt majeur à utiliser de la CUDIM, enfin de la QDIM, et notamment dans les jeux. Je trouvais que le gain en jeu était... Alors, ça ne fait... Évidemment, on n'atteint pas les performances d'un 9800X 3D, mais je trouve qu'une bonne partie du retard du 285K a été comblée par la mémoire. Donc,
mais alors, c'est quoi la différence de prix?
Alors voilà, là, il y a la différence de prix, il y a aussi la différence de disponibilité, parce que au moment où le Core Ultra 200 est sorti, la QDIM était pratiquement non trouvable. Je pense effectivement la CUDIM, la QDIM est plus chère. Je pense que à partir du moment où un gamer va investir dans de la mémoire pour son PC gamer, il va de toute façon acheter un kit plutôt haut de gamme. Donc on va dire que le surcoût de la QDIM passe un peu dans l'achat de performance, en sachant que le gain vraiment est notable, puisque on parle de fréquences vraiment beaucoup plus élevées que la UDIM. Ouais. Et alors, une fois de plus, quand la QDIM est sortie, j'ai dénombré que deux sites qui ont refait leur test du Core Ultra 200 avec la QDIM. Et j'ai trouvé ça dommage parce que j'avais envie, j'avais envie de dire, c'est avec ça qu'il faut acheter un Core Ultra, quoi. Il faut, voilà, le Core Ultra ne peut vraiment donner le maximum de sa performance qu'avec de la mémoire QLD.
Ouais.
Et voilà, je trouve que ça aurait été une autre époque, un autre temps. Je pense que l'accueil du Core Ultra 200 n'aurait pas été le même. Voilà. Okay. C'est pas un processeur qui va marquer une étape importante dans l'histoire de Intel, mais voilà, il ne dénote pas des précédentes générations.
Pierre, il y a une effervescence autour des PC copilotes avec les puces ARM. Tu avais pu en tester un, c'était un modèle d'Asus, je crois. Globalement, ça donnait quoi? C'était bien, c'était pas bien, c'était...
Alors, globalement, c'était... On va dire c'était bien, voilà. C'est pas un mauvais processeur, c'est juste que, voilà, je reviens très rapidement. En gros, quand ils sont sortis les premiers PC ARM en 2017... Parce que ça date, hein. Moi j'en avais acheté un. C'était horriblement lent, mais vraiment, hein. Parce qu'en fait, ils mettaient des processeurs Qualcomm de smartphone. Et c'est pas une image, hein, c'est littéralement. Donc on a, si vous aviez eu un Galaxy S, il y avait un Snapdragon 835 à l'époque. L'année suivante, parce qu'en plus il y avait du retard, vous retrouviez le 835 dans un PC portable. Donc on se rend bien compte qu'il y a un problème de performance quand on met un processeur littéralement de smartphone. Les avantages, en fait, c'était surtout, on avait une très bonne autonomie parce que c'est une puce qui consomme très peu, forcément, vu qu'elle est pensée pour un téléphone. Une puce 4G intégrée, parce que c'est une puce de téléphone. Et du silence, parce qu'il n'y avait pas besoin de ventilateur. Le problème que j'ai eu avec le PC d'Asus, c'est un Dragon X Elite, c'était plutôt bien. C'est assez rapide, il y a plein de cœurs, Windows 11 ARM, ça marche à peu près. Mais du coup, les avantages des PC Windows ARM, ils disparaissaient parce qu'il a une bonne autonomie, mais pas extraordinaire. Parce que 12 heures, en fait, voilà, un MacBook Air fait 8 heures de plus. 12 heures, c'est bien pour un PC, mais c'est pas... voilà, ça fait une journée de travail, mais c'est pas génial. Il y a des ventilateurs parce qu'en fait pour refroidir 12 cœurs rapide, faut ventiler et donc ça fait du bruit par rapport à un MacBook Air. Et du coup il n'y a pas de 4G parce que c'est pas une puce de smartphone et que Qualcomm n'a pas mis de modem 4G. Tout ça mis ensemble, plus le fait que c'est des PC qui sont quand même assez chers, quoi, voilà, parce que du coup ça, moi j'ai testé, c'est un PC assez haut de gamme avec un écran OLED plutôt léger, fin, enfin quelque chose de bien, plutôt des ordinateurs entre 1000 et 1500, donc ça commence à être assez cher pour un PC. Ça permet pas du tout de jouer parce qu'en fait Qualcomm, ils ont beau dire on a une vraie partie graphique, leur partie graphique est plutôt lente, les pilotes sont buggés, il n'y a pas de jeu adapté du tout. Et en fait il y a même beaucoup de jeux qui ne se lancent pas, non, pas à cause de la partie graphique, c'est juste parce que en fait toutes les protections contre la triche et la copie nécessitent un processeur Intel, enfin un processeur x86, et donc ça ne marche pas du tout sur de l'ARM. Et puis après, c'est ce qu'on disait, en fait, il y a un problème de pilote, très clairement. En fait, il n'y a personne qui développe des pilotes pour des puces ARM. Hein. Bon, alors, pour un truc USB ou une carte d'extension, c'est pas très grave, parce que pour le moment, il y a ça que dans des PC portables, donc qu'il n'y ait pas de pilote pour une GeForce, c'est pas très grave, on ne va pas pouvoir la brancher. Mais par exemple, le truc bête, c'est qu'il n'y a pas de pilote d'imprimante. Donc il y a très peu d'imprimantes. Si Windows a le pilote pour l'imprimante, ça marche à peu près, on a les fonctions de base mais on n'aura pas toutes les options derrière, mais en fait pour la majorité des imprimantes ça ne fonctionne tout simplement pas. Et le seul point qui heureusement s'est bien amélioré, c'est que le premier PC ARM que j'avais, il n'y avait pas de logiciel en fait, et donc on avait un processeur de smartphone très lent qui devait lancer une version émulée de Chrome par exemple si on voulait un navigateur. Et alors au-dessus de 3 onglets, c'était impossible à utiliser. C'était horrible. Et du coup, maintenant, on a des processeurs beaucoup plus rapides. Google a quand même optimisé Chrome. Donc, les applications de base, Office, Chrome, vraiment les grosses applications sont optimisées. Et donc, pour un usage grand public standard, on va dire, c'est à peu près viable. C'est pas mal. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de raison particulière, à part si on n'aime pas Intel ou AMD. Ça peut arriver, on peut dire non, je veux pas du x86. Mais en fait, il y a des PC x86 dans la même gamme de prix qui ont des performances du même ordre avec une autonomie du même ordre, donc il n'y a pas de gros gain. Alors que, en fait, quand Apple a sorti le MacBook Air M1, déjà, on n'avait pas le choix. Voilà. Hein, parce que Apple, bah, ils ont arrêté de vendre les modèles Intel. Et puis, il faut bien le dire, le MacBook Air, le dernier MacBook Air Intel, celui qui est sorti juste avant les M1, c'était un modèle où on sent bien qu'Apple a pas fait trop d'efforts pour l'optimiser, en sachant qu'il va y avoir le M1. Donc, il y avait des processeurs en Intel, plutôt les versions basse consommation, avec un refroidissement pas très bien optimisé. Et donc, forcément, les gains étaient très importants.
Oui, ok, ouais. Mine de rien, on a l'impression que l'industrie a décidé de suivre la voie d'Apple pour la majorité de ses machines grand public. Franck, t'en penses quoi ? Est-ce que le X86 a un avenir ailleurs que chez les joueurs ?
Selon moi, à l'heure actuelle, c'est pas l'architecture qui fait une bonne machine de jeu. Je pense que historiquement, les machines de jeu ont toujours été basées sur des processeurs X86. Mais je ne pense pas que ce soit une question de X86 ou ARM ou autre. Alors, il fut un temps, si. Je pense que oui. On se rappelle tous la tentative de percer de Intel dans le monde des smartphones avec leur SoC Atom.
Ouais, mais le truc, c'est justement, c'est que personne ne s'en rappelle tellement.
Bah, personne ne s'en rappelle, voilà. Bon, clairement, voilà, le SoC n'était pas fait pour le smartphone. Et je pense que là, il y avait vraiment une différence d'architecture qui faisait que le X86 n'arrivait pas à se plier aux contraintes du smartphone. Ouais. Bon, maintenant, je pense que... Alors, ça, c'était il y a, on va dire, je crois qu'Intel a acheté l'éponge il y a 10 ou 12 ans. depuis, bon, ils ont pas... Voilà. Mais je pense qu'en 10 ou 12 ans, les choses ont changé. Alors, pour illustrer ça, je vais prendre une image assez simple. C'est-à-dire que, d'un côté, on a les processeurs ARM qui étaient vraiment... jusqu'à il y a peu, destiné que pour les smartphones. Et d'un autre côté, les X86 qui équipaient des laptops et qui étaient vraiment destinés à équiper des machines de bureau, dont des machines de jeu. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de... Ils se sont tous les deux, chacun dans leur coin, regroupés pour finalement atteindre un objectif commun qui était le laptop. Donc, on a vu ARM, en l'occurrence les Qualcomm Snapdragon qui étaient issus des technologies du smartphone qui ont été, on va dire, un peu musclés pour équiper des laptops. Et de l'autre côté, des CPU plus destinés aux machines de gamers qui ont été, on va dire, allégés pour équiper des laptops. Et au final, on s'aperçoit qu'ils sont arrivés tous les deux avec des architectures de base différentes, sont arrivés à des processeurs différents dans les choix, mais finalement avec des performances, si elles ne sont pas égales, au moins sont comparables. Y a pas une différence de performance très importante entre un Snapdragon X Elite et un Core Ultra 200 pour laptop. Ouais. Donc j'ai envie de dire que, alors, est-ce que le X86 peut engendrer de bons laptops, oui. Est-ce que ARM pourrait équiper des machines de jeu, oui. Après, je pense que c'est plus une question de volonté des constructeurs pour adapter leur gamme à tel ou tel usage. Il y a peu de temps, j'ai vu une vidéo de Jeff Gerling. Je pense que vous savez qui c'est. C'est une personne qui touche un peu à tout. Il touche au PC, il touche au monde de ARM, il touche au Raspberry, il touche au Mac. Et en fait, j'ai eu un échange avec Jeff parce que il avait monté une machine ARM à 128 cores. Donc c'est une machine équipée d'un processeur Ampère. J'avoue que je connaissais pas la marque avant que Jeff me dise que son PC était équipé d'un processeur Ampère. Donc c'est pas vraiment un SoC, hein, c'est plus un CPU. Donc c'est un CPU à 128 cores ARM. Donc ils sont basés plus précisément sur un ARM Neoverse V1, qui est un processeur plus destiné à des serveurs. Donc c'est une architecture ARM. Et en fait, le pauvre Jeff, il avait du mal à trouver des drivers. C'était vraiment bête, quoi. Il arrivait déjà pas à installer Windows ARM sur sa machine. Il avait trouvé aucun ISO qui veuille bien aller jusqu'au stade de l'installation. Après, il avait du mal à trouver des drivers pour sa carte RTX. Il avait installé une RTX, une A4000, si je me souviens bien. Il n'arrivait pas à trouver les drivers. Bon, finalement, alors, à force d'insister et d'envoyer des messages, il a pu avoir une machine qui tourne. Bon, après, c'est une machine qui tourne quand même dans une enveloppe énergétique qui est de l'ordre de 250 watts, hein, enfin le SoC, enfin le CPU. C'est quand même pas rien. Et il dit, finalement, c'est une machine de jeu comme pourrait l'être un bon PC. Alors, si on arrive à avoir un système stable, à avoir un système des drivers qui marchent bien. Donc, je pense qu'il n'y a plus vraiment de différence d'architecture qui cantonnerait une architecture à un usage. Enfin, je ne sais pas, Pierre, ce que tu en penses, mais...
C'est le sujet d'un article qu'on a publié vers le 15 janvier, que de fait, si une société décide de faire un processeur... le jeu d'instruction en lui-même n'a pas tellement d'importance, pour peu que les ingénieurs savent ce qu'ils font. On peut faire du x86 qui consomme très peu ou qui offre de bonnes performances, on peut faire la même chose avec du ARM, du RISC-V. C'est juste un choix au départ, sachant que du coup, pour faire du x86, il faut... il n'y a personne qui peut avoir une licence, en fait. Voilà. Tu te disais, il reste 4 fabricants dans le monde, 4 sociétés qui ont une licence... Apple peut pas dire « Coucou, j'arrive, voilà mon x86 », parce qu'il y a plein de brevets d'Intel et il y a plein de choses, ils peuvent pas le faire. Que de l'ARM, spécialement quand Apple a commencé à le faire, il suffit de prendre une licence. Enfin, il suffit. Ils payent et ils peuvent faire une licence et voilà, ils ont le droit de le faire. Et plus récemment, il y a RISC-V qui ne nécessite pas de payer une licence. C'est un jeu d'instruction open source. Il y a d'autres choses derrière à gérer, mais voilà... Après, question jeu, les consoles de jeu, l'Xbox et les PlayStation, c'est du x86, c'est de l'AMD, chez Nintendo, c'est des processeurs ARM couplés à une carte graphique Nvidia, c'est un choix qu'ils ont eu, parce que Nintendo travaille avec de l'ARM depuis 25 ans maintenant, parce qu'en gros, ils ont commencé à équiper... les premières consoles avec du ARM, c'était les Game Boy Advance, donc c'est vers début 2000. Donc ça fait 25 ans qu'ils en mettent, donc ils savent à peu près ce qu'ils font. C'est juste que, de fait, faire des jeux sur ARM actuellement, le problème c'est qu'il n'y a pas de jeux, quoi. Donc, on est obligé d'émuler dans la majorité des cas, à part quelques jeux chez Apple.
Oui, alors ça effectivement, c'est la question, je pense, portée sur le hardware. Maintenant, le software, effectivement, c'est une problématique différente.
Oui, c'est autre chose.
Alors, il y a effectivement la volonté des éditeurs, des développeurs de jeux ou autres, de passer sous ARM ou autre. Après, de mon expérience, il est plus facile de passer de x86 à ARM, tout en restant sous Windows, que de changer complètement de plateforme.
Oui.
Ça va plus vite. Microsoft pousse un peu aussi les développeurs à le faire. Il faut avouer que les outils, les compilateurs... Un compilateur, le dernier Visual Studio 2022, c'est peut-être pas le dernier maintenant, mais en tout cas, c'est un des derniers que j'ai mis en place. La version x86 et ARM, c'est la même. C'est-à-dire que, à moins d'avoir du code vraiment écrit en langage machine, n'importe quel code compilera d'une plateforme à l'autre en comme ça. Quoi. Donc ça, c'est vraiment très très très
oui. Mais il a fallu le temps.
Il a fallu le temps.
Voilà, moi je les ai suivis dès 2017. En gros, il a fallu attendre vers 2020-2021 pour qu'on puisse compiler à peu près n'importe quoi en armes. Oui, avant, c'était pas possible. Apple a bien joué ça, le fait que, en gros, le jour où ils ont annoncé, regardez, on passe sur nos processeurs, ils ont dit, regardez, vous pouvez acheter un kit de développement, allez hop, il est là, et vous poussez sur un bouton et vous avez votre version ARM qui sort. Et je l'ai fait, en fait. Voilà. En 2020, quand ils ont annoncé les processeurs 1, moi, pour Canard PC Hardware, on a commandé le kit de développement, j'en ai un derrière moi encore. J'ai toujours le Mac Mini de développement, et j'ai compilé Doom. Enfin, je suis pas un développeur, mais j'ai pris Doom, et quand on l'a reçu, j'ai pris Doom, et j'ai fait une version ARM de Doom en une heure, quoi.
Ouais.
Voilà.
Puis après, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est les drivers. C'est-à-dire que, pour en revenir sur l'expérience de Qualcomm, ils ont vraiment pas une bonne image de suivi des pilotes, ouais. Des matériels un peu anciens. Alors, matériel un peu ancien, hein, c'est pas forcément des choses qui datent de 20 ans, mais ouais. Des matériels qui sont plus vraiment en vente. La communauté, je me suis inscrit à différents groupes les plateformes ARM64 et notamment des groupes de développeurs, et beaucoup se plaignent de ça. C'est-à-dire que beaucoup ont des machines sans pilote, ouais. Où il manque la moitié des pilotes. Heureusement, il y a un aspect communautaire bien développé, c'est-à-dire beaucoup de gens mettent la main à la pâte. Mais pour le reste, je trouve que ça peut vraiment être un frein. S'ils n'améliorent pas la prise en charge des pilotes de matériel, je pense qu'ils n'y arriveront pas.
Ouais.
Parce que, voilà. Après, inversement, pour revenir sur le cas de Jeff, c'était les drivers de cartes. Alors, en l'occurrence, Nvidia propose des drivers ARM64, mais c'est pas public. Alors, pourquoi ? On ne sait pas.
Et... c'est habituel chez eux.
Voilà, donc ouais, je pense qu'il y a effectivement beaucoup. Est-ce qu'il y a des freins ? Est-ce que finalement ils veulent pas avoir deux fronts amenés en même temps ? Enfin, x86 et ARM64. Je sais pas. Mais je pense que ce qui est sûr, c'est que si ça passe, si ça se débloque pas. C'est sûr qu'on n'aura pas de machine de gamer autre que X86 avant longtemps.
Oui, oui. Apple a pendant longtemps eu une certaine avance dans le domaine de l'IA. Le Neural Engine a fait ses débuts sur l'iPhone il y a des années maintenant. Les puces Apple Silicon ont toujours embarqué un accélérateur d'IA, bien avant la mode des LLM, ChatGPT, tout ça. Cependant, l'écart semble se creuser depuis quelques temps. On en est où, Pierre, à ce niveau-là ?
Alors en fait, Apple a une certaine avance parce que les systèmes Apple utilisent pas mal le NPU pour plein de choses, bien avant Apple Intelligence en fait. Ouais. Ça fait un moment par exemple que si on ouvre une image où il y a du texte dans la photo avec un iPhone, on peut sélectionner le texte, le copier et le récupérer. Ça utilise le NPU, c'est pas Apple Intelligence, c'est pas de l'IA, c'est juste de la reconnaissance qui est accélérée par ce genre de choses. Y a plein de choses comme ça dans le système qui se base dessus. Apple a mis un NPU, donc le NPU c'est l'accélérateur pour IA dès 2020 avec le N1. Sa puissance reste assez limitée. Hein. Alors l'unité qu'on emploie, ça s'appelle le TOPS, c'est le nombre de milliards ou de billions, je sais plus, d'opérations par seconde, mais enfin voilà.
Ouais.
AM1 c'est 11 TOPS. AM4 c'est 19 sur les mêmes opérations, c'est 38 si on fait des opérations un peu différentes, donc c'est ce qu'Apple utilise comme chiffre, 38. Si on veut une idée, une carte graphique GeForce, alors le plus gros modèle encore actuellement en vente, donc c'est la 4090, alors, la 5090 a été annoncée, mais j'ai pas trouvé les chiffres, une RTX 4090 c'est 1300 TOPS.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Donc, si on a vraiment besoin de faire des calculs de ce type, en fait, oui, ok, il y en a dans toutes les puces Apple, mais une vraie carte graphique ou un appareil dédié, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus performant.
Ouais.
C'est juste que Apple, ils intègrent ça dans un MacBook Air qui est un ordinateur portable sans ventilation, tout fin. Sous Windows, en fait, du coup, il y en a. Alors, soit la carte graphique peut faire les accélérations parce qu'il y a des unités dédiées, soit il y en a dans les processeurs modernes. Donc Intel en a mis dans ses derniers cores. Dans les cores 100 et cores 200, il y en a un plus ou moins performant. Il est assez léger, par exemple, dans les machines de bureau, parce qu'Intel sait qu'il y aura sûrement une carte graphique à côté qui sera beaucoup plus rapide.
Oui. Ouais.
Il y en a dans les processeurs Qualcomm et tout ça. La seule chose, c'est que c'est pas... Enfin, pour les développeurs, c'est pas particulièrement efficace. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui montraient qu'en gros, il y a la puissance théorique, il y a ce que vous arriverez à en faire avec les calculs, et chez Apple, comme c'est unifié et que tout le monde utilise le même, le théorique et le pratique se rapprochent à peu près.
Ouais.
Dans les PC, ça va dépendre, parce que si vous optimisez bien pour les unités Nvidia, ça va aller très vite, mais du coup, ça va pas nécessairement marcher sur l'accélérateur de Qualcomm ou d'Intel. Si vous faites quelque chose d'universel qui marche sur tout le monde, c'est beaucoup moins efficace. Donc, voilà. Après, je pense surtout que ce que Apple a pas nécessairement vu venir, c'est l'avènement des LLM, les modèles de langage comme ChatGPT, alors que Microsoft, en fait, ils ont investi beaucoup dans OpenAI. Ils poussent vraiment ça très fort, et donc forcément, ils ont une avance très nette sur ça, parce qu'ils sont dedans et ils ont de l'argent à y mettre, quoi. Et que Apple, on sent bien quand même qu'ils se sont dit, bon, c'est à la mode, je pense que tout le monde nous le demande, faut y aller, quoi.
Franck, est-ce que tu suis l'actualité des processeurs pour mobile? Les deux autres grands acteurs du secteur à part Apple, donc c'est Qualcomm et MediaTek. Quand on regarde certains benchmarks, ça a l'air assez serré par rapport à l'A18 Pro d'Apple.
Alors, l'actualité des processeurs pour les smartphones et les mobiles est très active. Alors, tu as cité Qualcomm et MediaTek, j'ajouterai Samsung et son Exynos. Alors, faut savoir que dans CPUZ, on a une base de données qui en fait regroupe les validations, et on a le système qui est en place pour les Android. Alors la base de CPUZ, elle vaut ce qu'elle vaut, puis elle est peut-être pas représentative du marché. En gros, il y a 9 smartphones sur 10 sont des Samsung. Donc c'est vraiment voilà. Alors tous les Samsung n'ont pas des Exynos. Sûrement les haut de gamme. Mais enfin voilà, dans les
et plutôt en Europe.
Oui, voilà, oui exactement, parce que aux États-Unis ils sont plutôt des Qualcomm.
Ouais.
Les MediaTek, les SoC MediaTek se trouvent plutôt dans le milieu de gamme, voire le bas de gamme. Par contre, la marque change, c'est-à-dire elle cherche à revaloriser son image de marque et pousse un peu les SoC dans plutôt le haut de gamme. Et je pense que l'expérience de Qualcomm leur a donné envie d'équiper des PC ARM 64. Pour ça, il faut qu'ils montent un peu en gamme pour avoir la puissance. Un des problèmes de MediaTek, c'est que ils utilisent toujours le GPU par défaut de l'architecture ARM. C'est-à-dire que, en fait, quand ARM propose un SoC, il propose d'équiper les pièces qui manquent par un modèle qui vient d'eux. Donc, en l'occurrence, pour le GPU, c'est les GPU Mali, qui équipent un certain nombre de SoC MediaTek. Donc, le Mali n'est pas une mauvaise puce, c'est un GPU tout à fait bien, mais qui sera peut-être un peu léger pour des PC sous ARM 64. Alors, il y a peu de temps, j'ai lu que MediaTek s'était rapproché de Nvidia pour proposer un SoC qui utiliserait les CPU MediaTek avec un GPU de Nvidia. Alors, je ne sais pas trop où ils en sont.
Alors, moi, de ce que j'ai vu, ça existe.
Ça existe.
Voilà, c'est ce que Nvidia l'a montré, on en a parlé. Ils ont montré une sorte de d'ordinateur, de mini PC de développement qui va coûter 3 ou 4 000 euros, qui est vraiment prévu pour les gens qui veulent faire de l'IA, qui se base justement voilà, sur une puce avec des processeurs issus de Mediatek avec une GeForce. La seule chose, en fait, c'est que... Alors, Microsoft et Qualcomm diront non, ça n'existe pas, mais il y a un accord d'exclusivité sur les PC ARM qui fait que, pour le moment, depuis 2017, en 2025, c'est uniquement des processeurs Qualcomm. Donc voilà, il n'y a pas d'accord d'exclusivité officiellement, il y en a officieusement, tout le monde le sait, et toujours officieusement, de ce qu'on a comme information, il se termine cette année. Donc cette année, on devrait voir débarquer des PC portables avec autre chose que des Snapdragon.
Et des Qualcomm.
Voilà, donc sûrement des processeurs de Mediatek, peut-être d'autres, et peut-être aussi ce que certains de lecteurs de Mac Génération attendent peut-être un jour. C'est pas exclu qu'on puisse installer Windows sur un Mac directement, alors que pour le moment, c'est pas possible. Pour le moment, sur un Mac Apple Silicon, le seul moyen d'avoir Windows, c'est de passer par une machine virtuelle. C'est pas totalement exclu qu'on puisse un jour installer Windows nativement.
Pierre, les procédés de gravure continuent de s'affiner. TSMC sera en train de produire les premières fournées de tests de puces en 2 nanomètres. Est-ce que ça va continuer longtemps comme ça? On arrivera bientôt sous le nanomètre, donc on va bien finir par y avoir un plateau, non?
Ah, je ne suis pas physicien, hein, c'est un domaine compliqué. Disons que ça va faire 20 ans que j'écris sur le sujet, ça va faire 20 ans qu'on s'approche de la limite. Voilà. Bon. Non, je pense qu'en fait, s'il y a un plateau physique, d'abord, ils trouveront sûrement des solutions pour essayer d'aller dans une autre voie. Plus le fait que quand on parle de 2 nanomètres, 3 ou 4, on n'a pas des composants qui font cette taille-là. C'est la taille plus ou moins estimée, parce que ce n'est pas tout à fait le cas. On parle plutôt de classe de nanomètres, de certaines parties des transistors. Donc en vrai, on n'est pas à ces distances-là. Dans tous les cas, graver plus fin, ça reste un avantage. Ça permet à minima deux choses. Soit on garde une consommation à peu près constante et on améliore les performances en mettant plus de transistors, fréquences plus élevées, plein de choses. Voilà. C'est une puce plus grosse qui fait plus de choses. Soit on diminue la consommation et le coût de fabrication, parce que du coup, quand on a des transistors plus petits, si on met le même nombre de transistors, la puce est plus petite, donc elle coûte moins cher. On en met plus sur la même surface. Bon, c'est une solution qu'on fait pas souvent, mais ça arrive. Apple l'a déjà fait sur quelques trucs. Le problème principal, il vaut pour TSMC, c'est que ça, c'est si tout se passe comme prévu. Pour TSMC, donc TSMC, c'est une société taïwanaise qui est le leader actuel. Ils sortent tous les ans, tous les deux ans, une nouvelle évolution. Donc on est passé, voilà, on a eu 10, 7, 5, 4, 3, bientôt 2 nanomètres. Ça marche à peu près à chaque fois. Mais par exemple, en 2015, Intel, ils avaient une avance importante. Ils donnaient vraiment la de la gravure, quoi. C'était eux qui avaient les meilleures gravures, c'était eux qui étaient les premiers et tout ça. Et puis, ça n'a pas marché. Mais genre, pendant 5 ans, ils n'ont pas réussi à sortir quelque chose qui marchait, quoi. Donc, ils avaient des rendements très faibles, ça leur coûtait très cher. Du coup, ils se sont fait dépasser par TSMC. Et donc le problème qui pourrait arriver, c'est que si TSMC se plante là, pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils peuvent avoir un problème avec, on a essayé de développer quelque chose et ça marche pas, mais ils sont en Taïwan, il peut y avoir une guerre. Faut dire, voilà. Et du coup le problème, c'est que si TSMC se plante, ça va bloquer tout le monde en fait. Parce que
ils sont collés par qui, TSMC? C'est Samsung qui est derrière, non? À peu près.
Ouais, c'est Samsung, mais Samsung a un problème. Donc en gros, pour le moment, Apple, AMD, Nvidia, Intel, grâce c'est plus si TSMC, tous les gros constructeurs passent par TSMC pour beaucoup de choses. Si TSMC ne marche pas, ils n'ont pas d'alternative, en fait, parce que la seule alternative pour le moment, c'est Samsung. Mais sauf que le 3 nanomètres de Samsung... il n'est pas très bon. Il fonctionne, mais il est moins bien. On a un point où alors, il y a une rumeur qui a été une rumeur qui est a priori vraie, comme quoi Samsung a voulu graver justement les Exynos dont Franck parlait. Ils ont voulu les faire graver par TSMC. Alors que il y a Samsung, qui est une filiale en fait, il y a Samsung Electronics d'un côté et Samsung Gravure de l'autre. Alors que Samsung grave, mais sauf que TSMC le fait mieux. Et le problème, c'est que voilà, donc Samsung est moins bien, mais à peu près valable. Et puis après, les suivants, en fait, c'est des sociétés qui ont des vieilles technologies. Parce que on a besoin du 3 nanomètres pour graver un processeur d'iPhone.
Ouais.
Parce que c'est une puce qui doit graver vite, consommer pas beaucoup. Après, la majorité des autres puces qu'il y a dans un ordinateur, enfin, tout ce qu'il y a, tous les contrôleurs, tout ce qu'il y a d'autre dans un ordinateur, on peut graver ça sur des vieilles technologies qui sont rentables. Oui. Et donc les autres sociétés de gravure, elles maîtrisent bien les vieux, on va dire vieux, mais disons que les anciennes technologies qui suffisent pour plein d'usages. Mais du coup, on peut pas graver un A18 Pro avec du 12 nanomètres, parce ça ne marche pas. On va avoir quelque chose qui sera énorme ou qui consomme trop. Et donc, le risque, c'est pas tellement qu'on soit bloqué par l'arrivée à des limites physiques. Le risque, c'est que TSMC se plante et que personne ne puisse suivre derrière.
Je pense que dans un SoC, enfin un CPU, il peut y avoir aussi différentes tailles de gravure suivant les tailles. Par exemple, Ryzen, il est annoncé comme étant un 4 nanomètres, mais en fait, son IO doit être, je sais pas, en 6.
C'est encore en 12, je crois. C'est encore la vieille techno. Même chose Intel, mais ici, après, je parle comme lecteur, ça s'intéresse plus à Apple. Apple fait encore des puces monolithiques. Ça devrait changer. Voilà, tous les bruits de couloir a dit que bon, le M5 et peut-être M6, on va aller sur quelque chose d'un peu plus séparé, justement comme Intel et AMD. Mais pour le moment, ça reste du monolithique avec des puces assez grosses.
Eh bien, merci à vous deux pour ces réponses. On attend maintenant les puces M5 que les rumeurs ne voient pas venir avant la fin d'année, voire en 2026. Franck, merci d'être venu, à bientôt.
Merci.
Pierre, à la prochaine.
À la prochaine.
Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.